mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Quel fut le rôle de l'environnement familial dans la foi de René Girard? Les réponses se trouvent dans la biographie de Girard, publiée par Benoît Chantre en octobre 2023. En voici quelques extraits. René Noël Théophile Girard est le deuxième enfant de Joseph Girard et Marie-Thérèse Fabre. Joseph Girard, fils d'une hôtelière d'Avignon et d'un représentant de commerce originaire d'Auvergne, est sorti deuxième de l'école des Chartes en 1903, est devenu, 3 ans plus tard, conservateur de la bibliothèque municipale et du musée Calvet d'Avignon. Marie-Thérèse Fabre, première bachelière de la Drôme, comme elle le dit avec fierté, est issue d'une famille de soyeux, les Fabre et les Delois, qui se sont ruinés en plaçant la vente de leur magnanerie dans les emprunts russes. Ils n'en revendiquent pas moins, du côté de la branche maternelle, une sainte ascendance, puisque la famille serait celle d'une sœur bénédictine, Suzanne Delois, religieuse décapitée en 1794 avec 31 autres sœurs près d'Orange. Marie-Thérèse, la mère de René Girard, est intelligente et vive, littéraire et musicienne. Elle joue du Haydn et du Bach sur le piano familial. Joseph Girard, le père de René Girard, est comme sa femme le seul intellectuel de sa famille d'origine. Mais il n'a pas l'âme artiste. Historien et érudit, un peu ennuyeux au dire de son propre fils, il est, comme beaucoup dans la région, de tradition radicale socialiste, dreyfusard et anticlérical. Ouverts et libéraux, les parents Girard seront soucieux d'éviter à leurs enfants les difficultés qu'ils ont eux-mêmes connues. Blessé du côté du chemin des dames, Joseph Girard a gardé de la guerre une blessure à la tête, dont il ne voudra jamais parler parce que c'était une blessure civile et non militaire. Son frère Pierre, qui recevra Francis Poulenc et Pierre Bernac à sa table, est le médecin de toute la famille. Marie-Thérèse elle-même a été infirmière pendant la guerre. Elle en a vu toutes les horreurs au moment de l'arrivée des trains de blessés en Avignon dès le mois d'août 1914, quand les troupes provençales subirent une hécatombe. Elle transmettra son antimilitarisme à son fils René. Cela n'empêchera pas ce dernier d'avoir une passion pour l'histoire et pour les guerres napoléoniennes en particulier. On parle souvent politique chez les Girard, le républicanisme de l'un s'opposant vivement au monarchisme de l'autre. Le ton monte toujours pendant les élections, et René sculpte des députés qu'il dispose dans un parlement en carton. Il y a beaucoup de livres dans la maison familiale. Dans le bureau de Joseph, une belle bibliothèque en pichepin, avec ses volumes de Balzac, de Saint-Simon, ou de la comtesse de Ségur, qui, avec Jules Verne, fut aussi l'une de ses lectures de chevet. Les Girard sont ainsi paisiblement tiraillés entre le Moyen-Âge et le romantisme, l'Ancien Régime et la Révolution, famille heureuse, vie calme et douce, dans le soleil et les cigales de Provence, paix que rien n'interrompra jusqu'aux journées de février 1934, où la montée de l'extrême droite en France, 2 ans avant le Front populaire, sera pour Joseph Girard et conséquemment pour son fils, qui partagera ses opinions, le signe inquiétant, tout autant d'une montée du fascisme en Europe, que d'un repli nationaliste de la France, trop chauvine désormais pour avoir une vision juste du cours du monde. Il y aura là une nouvelle source de tension entre les époux Girard, les opinions de Marie-Thérèse lui faisant souvent dire du mal de Léon Blum et du Front populaire. Il faudra l'appel du 18 juin pour que ces querelles cessent de résonner dans la maison familiale. Curieusement, ce temps de l'enfance et du bonheur familial, celui aussi de la classe d'enfants gâtés, où René Girard et sa sœur Marthe se rendront pour des cours dispensés le matin chez Mademoiselle Jean-Jean, passant tous leurs après-midi à la maison, ce temps est aussi celui de la perte d'une foi chrétienne, qui n'aura duré que le temps d'apprendre et de désapprendre les prières faites en famille, tant en Avignon qu'à Vivarols. Comme son père, les prêtres exaspèrent très vite le jeune Girard. Le curé du petit village auvergnat, par exemple, refuse de confesser sa sœur Marthe, parce qu'elle se promène avec des garçons, en l'occurrence ses deux frères. Elle ira donc réciter ses fautes à Églisolles, le village voisin. Les femmes et les hommes sont séparés pendant les messes dominicales, les hommes étant tous considérés grosso modo comme des pornographes en puissance. À cela s'ajoute une théologie désuète, où domine l'idée de condamnation morale. Cette raideur vient des assauts que le catholicisme a subis depuis les persécutions révolutionnaires, où furent follement et sauvagement confondues les notions de potestas et d'auctoritas, les puissances temporelles et spirituelles. Les catholiques se croient donc agressés de toutes parts et se pensent comme des survivants. Ils s'accrochent à leur ritualisme, à leur procession et à leur superstition quotidienne. Les enfants Girard ne savent donc pas très bien pour qui leur mère leur demande de prier le soir à Vivarols quand elle évoque leurs parents martyrs. Par ailleurs, la piété envers les âmes du purgatoire, ces morts qui n'ont pu obtenir la palme des saints et doivent être sauvés en différé grâce à la réversibilité des mérites. Je prie pour tous ceux qui ont péché, ceux du paradis prient pour moi, qui prient pour ceux qui n'y sont pas encore. Cette piété est revenue en force au XIXe siècle. Elle est circulaire, elle vise à apaiser le courroux d'un Dieu qui hait la chair et punit les hommes. Elle est très présente en Auvergne. Elle constitue le ronron des offices, au cours desquels les hommes finissent par se retirer discrètement pour aller boire un verre sur la place du village. Mais l'univers chrétien n'en est pas moins très présent dans la famille Girard. René participe ainsi plusieurs années de suite à des excursions à l'église abbatiale de la Chaise-Dieu, reconstruite au XIVe siècle sur le lieu de l'abbaye bâtie par l'ermite Robert de Turlande au XIe siècle. Le lieu est magique, même si la Révolution l'a vidé de ses moines. Les trois aînés sont photographiés dans le cloître, devant une baie magnifique qui servit de modèle en Avignon pour la restauration de la fenêtre de l'indulgence d'où le pape bénissait les foules. Celui qui a demandé aux trois enfants de poser devant la baie du cloître est probablement Joseph Girard, venu passer quelques jours en Auvergne auprès des siens. C'est le temps du Front populaire, où profiter de ses vacances fait moins scandale. Le conservateur du musée Calvet, même s'il rechigne à voir dans cette région de son enfance, où il s'ennuie beaucoup, aura été un guide idéal en ce lieu. Joseph Girard est convaincu que la Chaise-Dieu fut reconstruite par les architectes de la Cité des Papes, dont la signature est claire, selon lui, dans la chapelle pontificale et la nef. Une fois entré dans le chœur, on peut voir les 12 tapisseries commandées par Jacques de Saint-Nectaire. René Girard les a souvent contemplées avec sa famille. Œuvre exceptionnelle, sans doute venue des Flandres, commandée par l'abbé pour ses moines à des fins édifiantes. Refoulée et cachée dans la tour Clémentine pendant la Révolution et réapparue au XIXe siècle, elle est composée de 14 panneaux représentant des scènes de la vie du Christ. Chaque scène évangélique est entourée de 2 épisodes bibliques censés la préfigurer. Il s'agit d'une véritable Bible des pauvres, construite selon un programme typologique assez savant et soutenu par des commentaires précis des pères de l'Église, commentaires tissés dans les images et inspirés du Speculum Humanae Salvationis, le miroir du salut de l'homme. La série commence par une annonciation, flanquée à gauche dans un diptyque très puissant par Adam, Ève et le serpent. Les textes latins, jouant l'un en face de l'autre, suggère que si c'est un refus d'entendre qui a permis à l'humanité de survivre, c'est une toute autre survie qu'apportera la pleine écoute de la parole annonçant la naissance imminente du Rédempteur. Les scènes de la Passion sont ensuite privilégiées. Ainsi, Jésus vendu par Judas est accompagné par Joseph vendu par ses frères, la flagellation par Job frappé d'ulcère, la mise au tombeau par Job descendu dans le puits, le jugement dernier par le jugement de Salomon. Les connaisseurs de l'œuvre de Girard auront reconnu les épisodes particulièrement commentés par lui à partir de son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Si l'on en juge par la photo des trois enfants devant la baie du cloître de la Chaise-Dieu, le jeune Girard a entre 13 et 15 ans. Sa mémoire est exceptionnelle, au dire de son père, qui l'encouragera bientôt à préparer l'école des Chartes. Quant à ses notes en latin, nous les avons consultées sur les bureaux du collège et du lycée Mistral. Elles sont excellentes et font l'admiration des professeurs. Regardant ces images, écoutant les commentaires de ses parents, lisant lui-même ce qui figure sur chaque tapisserie, une parole aura été dite en lui, dont témoigne le souvenir très précis qu'il aura de ces images quand il se refera une enfance 70 ans plus tard. Dans des entretiens inédits en 1979 et 1982, Girard en dira déjà beaucoup, à sa manière, sur cette expérience oubliée, mais dont le souvenir très intense orientera sa vie. Voilà ce que dit René Girard. « Oui, mon enfance a été chrétienne. Ma mère était chrétienne. Mais j'ai abandonné très vite à l'âge de 12 ans. Mon père, lui, n'était pas pratiquant. Il était très sceptique. Un bon radical socialiste. La famille française typique. Ma mère était chrétienne, mais sans puritanisme. Il n'y avait pas de contraintes. Je n'avais pratiquement pas de souvenirs liés à la Bible. Je crois que la Bible est d'une telle puissance qu'elle peut refaire son enfance à n'importe quel moment. Mais elle n'est pas liée à des souvenirs d'enfance. Elle est liée à l'expérience des années où je l'ai lue. J'ai commencé à lire la Bible de la même façon que je lisais les romans. Les romans, j'en faisais déjà une espèce de Bible. Tout ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui transcendait les problèmes, les conflits, etc. Alors dans la Bible, j'ai eu tout d'un coup l'impression d'une puissance tellement plus grande dans le même mouvement, tellement plus forte. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.